on dit pas les mauvaises franquettes, on dit les bonnes franquettes.
Et c'est la bouche pleine de Pop-Tarts qu'on va débuter ce nouvel épisode de Critique Exquise.
Je vais juste dire de quoi. Hey, Pascal, ça tente-tu de faire l'intro? T'sais, il ne fait jamais.
J'adore ça. Let's go, Pascal.
Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Critique Exquise, notre podcast sur le cinéma. Et oui, c'est moi qui ai la joyeuse idée de, pas pantoute, mais de vous introduire cette semaine. Ouais. C'est la première fois, laissez-moi de la chance, soyez du genre, s'il vous plaît. Donc voilà, avec moi, donc je suis votre hôte, Pascal Grenier. Avec moi, j'ai nul autre que notre sympathique Jérémy Duroux-Mouchel. Salut Jérémy.
Ah oui, sympathique. C'est un adjectif qui est vraiment utilisé pour moi d'habitude. Moi, c'est plus genre un trou de cul ou.
Différent.
Oh, différent.
Marginal.
Et là, vous avez sûrement reconnu la voix de notre bouffon national, monsieur Tommy Godet.
J'ai la gueule pleine de Pop-Tarts.
Et cette semaine, on est grillé de deux autres invités. Et oui, des fois, de temps en temps, on essaye de faire ça différent. Fait qu'on a deux invités. On a Florence pour une troisième semaine d'affilée.
Oh! Yeah! Point.
Et aussi, il y a Milan qui est de retour.
Bonsoir. J'ai amené du whisky. Mm-hmm. Et ça commence à se sentir. La bouteille est presque finie.
Ah, c'est juste moi, ça.
Alors, voici.
Jérémy, tu nous annonces. Excuse-moi, Pascal, t'as super bien fait ça, fini.
Ouais, je vais continuer. Donc, cette semaine, on va parler un peu de. On va essayer d'être cohérent, mais on va parler beaucoup de choses, des trucs qui. Ça risque de partir dans toutes les directions, mais ça risque d'être surtout très intéressant. Alors voilà, donc on commence avec.
C'est Jérémy, c'est vrai, qui nous avait la semaine passée. Spider-Man.
Voilà, Jérémy nous avait promis trois films. Donc, il va les respecter. Alors, Jérémy, vas-y.
Okay, je vais essayer de faire ça vite. Parler de Spider-Man en deux minutes, Jean. Spider-Man Far From Home. Spider-Man, Peter Parker, il va à Paris. C'est un film à propos de voyager dans plusieurs différents pays. Il va à Paris, il va en Allemagne, il va n'importe où, Jean. Puis là, on voit ces scènes-là, vite faites. Puis en même temps, il se bat contre un...
Moi, j'ai trouvé ça super bon.
Il se bat contre un tech genius. Que c'est toutes les machins du film, c'est des employés qui sentent qu'ils n'ont pas bien été utilisés à leur emploi précédent. Puis à cause de ça, ils veulent faire semblant d'être des super-héros pour être écoutés par les gens. Qui
n'a
aucun sens. Parce que le gars, c'est un tech genius qui a inventé un hologramme machine. Puis comme personne n'a trouvé ça nice, Iron Man, il a haï mon idée. Fait qu'à cause de ça... Je vais faire semblant d'être un super-héros pour devenir le meilleur super-héros. Puis, après, les gens vont m'écouter finalement. Mais ils vont t'écouter pourquoi? Pour que tu leur vendes ton hologramme machine? C'est quoi tu veux faire exactement?
Mais ça, c'est-tu la suite logique de l'autre avant?
Ouais.
Oui, OK. Parce que je ne l'ai même pas vu. Attends. J'ai vu l'autre avant.
Les méchants du film, c'est des drones.
Oh boy.
Parce que Jake Gyllenhaal joue Mysterio, mais... Il est pas
tout
vraiment
illusion.
Il peut rien faire, toute illusion. Il est dans un CGI suit là, qu'on voit que tout le monde porte dans les films, les suits gris. Avec... Mais par contre, il peut projeter des illusions, genre c'est juste la vidéo, sur n'importe qui veut. Genre, il projette le suit de Spider-Man
Il y a le pouvoir de la projection.
Ouais,
c'est ça. Hot. Ça,
puis lui, il reste hot. En place, mais il y a un autre Jake Gyllenhaal qui est projeté, qui se bat.
Moi, j'ai trouvé ça très hot, en fait. J'ai trouvé ça hot que le MCU qui vient de nous faire un combat interplanétaire puisse retourner à un niveau de tout ça, de rencontre. J'ai trouvé que c'est une profondeur.
Parce que le film, ils veulent que tu aies ce film-là, mais le film, ça reste que c'est des elemental creatures en CGI de 60 pieds de haut qui détruisent tout l'environnement. Ça reste quand même extrêmement épique, puis trop épique pour Spider-Man. Il y a aucunement les conflits vraiment humains, sociaux qu'on avait dans les vieux.
Ah, tu trouves, toi?
Oh my God!
J'ai trouvé que ça retournait... Le fait qu'il soit en amour avec la fille, l'espèce de chicane avec l'autre qui est avec la fille, moi, j'ai trouvé que c'est ride on. Yeah. J'ai trouvé que c'est une très belle twist scénaristique que les gars aient réussi, les scénaristes aient réussi à redescendre le niveau de tension. Genre,
Le niveau de tension est vraiment plus élevé que dans le premier.
Mais c'est ça,
qu'ils l'ont pas redescendu.
Mais moi, j'ai trouvé ça hot.
Le fait que Spider-Man, il se bat contre des méchants géants en CGI. Ben oui, c'est, ça reste comme dans le même univers.
C'est tellement bien réussi, leur illusion, parce que, puis là, c'est pas le CGI qui pète, c'est les drones qui font le CGI.
Tout ça, c'est ridicule, parce que les drones, en plus, ils créent des sound effects extrêmement réalistes.
Ça, c'est
on voit jamais leur speaker system, mais ils peuvent faire les sons des monstres. Il y a même un monstre qui est fait en eau, puis on voit extrêmement l'eau tuer des
personnes.
C'est
vrai qu'il s'appelle
mais on a aucune idée comment ça se passe. Après, ouais. Spider-Man, il se bat contre un monstre en lave, mais après ça, on est censé...
Un monstre en lave?
Ouais.
Tu te bats contre un monstre en lave.
Il se bat contre. Il pitch du web sans arrêt, ça marche pas. Pis
no shit. Ah oh, ouais, hein?
T'as pas vu Spider-Man, toi, t'as pas aimé ça.
Ah, c'est un des PFMs. C'est un des PFMs de Marvel. Ça, pis Black Panther, là, c'est le deux worst.
Je les ai pas vus. Le dernier Spider-Man que j'ai vu, c'est le deuxième avec Tobey Maguire. Ça fait à ce point-là longtemps.
C'est le meilleur.
C'est
vrai que c'est pas mal le meilleur. Il y a des belles shots là-dedans. Si, fait que, y a-tu quelqu'un d'autre qui veut parler de Spider-Man ou en avance? Oui. Moi, je lui ai donné plus 6,9.
Ah, moi, j'ai donné 0.5.
Pauvre. Il manquait de Frank Grillo.
Ah, ouais, oui, c'est ça. Non, on va commencer là-dessus. Non, mais Tom Holland, il est bon, là.
Ben oui,
c'est
pas sa faute, vraiment bon.
Juste le film. Jake Gyllenhaal, il est bon aussi, mais il est engagé pour être debout devant un CGI, un green screen.
Moi, j'aimais ça que parce que tout le monde connaît Mysterio. Puis j'aimais ça qu'il se présente comme ça, puis qu'il passe pour le gentil. Même les spectateurs qui connaissaient Spider-Man depuis tout le temps, à un moment donné, on se dit, ben peut-être que c'est une réinterprétation, puis qu'il n'est pas si méchant que ça.
Moi, j'ai pas eu ça.
Puis j'aimais ça que ce qui rend méchant, c'est qu'ils sont aigris envers un homme qui est rendu un héros mondial. T'sais. Parce que l'humanité, dans le MCU présentement, considère Iron Man comme le sauveur de la vie. Là, t'sais.
Ouais.
Qui s'est sacrifié pour nous autres. Pis tout. Fait que là, c'est rendu comme une déité que eux autres peuvent plus se venger sur jamais. Fait qu'ils ont dit the next best thing, c'est de faire oublier ses exploits en faisant un exploit plus grand que ce que lui a fait. Puis moi, j'ai trouvé que la twist était bonne là-dessus. Puis l'espèce de manière qu'ils ont amené les jokes, tu sais, qu'il y en ait une, que sa responsabilité, ce soit d'amener la cape de Mysterio, puis qu'il insiste là-dessus. Tu sais, vas-tu avoir encore besoin de ta cape? Que le niveau redescende au point où on peut faire des petites jokes de même. J'ai trouvé ça pas mal.
Ben, c'est ça. Moi, toutes les affaires, tu dis que t'aimais, moi, j'haïs ça. Parce que toutes les affaires de comment on va t'amener ta cape, c'est genre... Ben, c'est le classique bad guy qui est super trop bad guy. Il y a un team qui le croit puis qui veulent être avec lui, mais il est menace de les tuer quand ils ont le contrôle du tech.
Ouais, mais il était pas bon. C'était pas un bon bad guy. C'était pas
qui était supposé. C'est un autre film où un bad guy est exagéré puis comme tout marche pas. Son plan marche pas.
Fait que là, toi, t'es tout vu les films du MCU. Souvent, il y a un punch à la fin du générique. T'as-tu vu celui à la fin du
générique? Oui, oui.
Que là, il nous ramène J. Jonah Jameson.
Oui, de Sam Raimi.
Que là finalement, Spider-Man redevient comme méchant dans l'opinion publique. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une crise de bonne twist aussi.
Il nous ramène qui? T'as dit Jenna Jameson, l'actrice porn?
Non, J. Jonah Jameson.
Ah, OK, excuse-moi.
Moi, je vote pour Jenna Jameson en passant. Là, c'est bien plus
elle
autre.
Elle pop à l'écran et elle dit « Arrêtez les vaccins. Les vaccins, c'est pas bon pour personne. » Spider-Man, il est comme « Moi, j'ai été vacciné et je suis devenu Spider-Man.
» OK, une araignée.
Ça, c'est un méchant crédit.
Ouais, c'est ça. Bien dit, t'es bonne, Florence. Ouais. On va te réinviter. Mais, fait que là.
Ouais.
Non, mais t'as-tu fini sur Spider-Man? Veux-tu.
Tu veux-tu rajouter quelque chose?
J'ai rien à dire. Je l'ai pas vu.
Rien à dire. On passe à quoi? Le dain de.
Dain de Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau.
On est tous fans de Quentin, toi, Pascal.
Oui, j'étais un fan. Ouais, mais j'étais déçu.
Ouais.
Moi, selon moi, c'est. Je pense que Quentin, quand il essaie de faire. Parce que ça, c'est un peu comme une. Satire slasher en même temps, mais avec son style. C'est le plus proche de Rubber, puis c'est le plus proche aussi. C'est le même qui ressemble à Rubber qu'après une demi-heure, on dirait qu'il manque d'idées.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon, Rubber, c'est ça. Rubber, je trouve que c'est son moins bon film.
Mais Rubber, c'est long.
Rubber, ça aurait été un magnifique court-métrage de 30-40 minutes, ou un moyen-métrage. Mais là, ici, là, ça commence comme ça, le dain, là, ça bifurque quelque part, mais là, après ça, c'est comme. Ça tourne en rond.
Il y a un bout dans le film, t'es comme, OK, il va savoir d'autres choses qui se passent, puis c'est juste ça, puis c'est répétitif, puis t'es comme, fuck. Il y a plein d'idées en tant qu'auditeur que t'as de où ça pourrait aller, puis t'es comme, ça va être fun, j'ai out. puis là, il n'y a rien qui se passe.
Ouais, puis comme...
Mais, comme dans Wrong, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est quand même
mais Wrong,
un bon film.
Tu l'acceptes dès le début qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais, ouais. Wrong Cops aussi, genre, t'es comme, OK, ouais. Ça va être juste des vignettes.
Ben, Wrong Cops, il se passe quand même pas mal d'affaires.
Mais wrong... c'est des vignettes.
Ouais, mais Wrong Cops aussi, c'est que c'est hilarant tout le long. Ouais, ouais, c'est ça très... t'amène dans plein de sens. Puis,
c'est pas mal un de ses meilleurs aussi, ouais, oui. Je pense, avec Steak.
Mais son dernier aussi, c'est un poste, un magnifique là, exercice sur le temps. Ça, c'était très intéressant, ça. Aussi, il jouait beaucoup avec ça.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, je sais pas. Là, on dirait que c'est comme il tourne un peu. On dirait qu'il y a comme son univers. Là. Bon, OK, le monde va s'attendre à ça un peu. Fait que je vais faire ça. Mais
ouais.
C'est comme il manque quelque chose.
Ouais, c'est ça. Le début, quand tu commences le film, t'es vraiment. Ah, yes. Jean de Jardin, excellent.
Il fit dans l'univers.
Ouais, ouais, le manteau en din. Puis comme à chaque fois qu'il essaye de quoi en din, il se regarde dans le même miroir. Puis il dit tout le temps la même chose. Je me rappelle plus c'est quoi, mais c'était la même chose que quand on l'écoutait en gang. On disait tout le truc avant qu'ils le disent. Ça, c'était le fun. Mais c'est ça. Ça va être...
Est-ce que Quentin Dupieux, là, on s'entend, c'est probablement le plus surréaliste réalisateur présentement, là, dans le sens que c'est pas juste de l'absurde. Là. On dirait qu'il y a comme un sens, mais qu'on n'est pas équipé pour le comprendre. Genre. Mais est-ce qu'il n'est pas comme... tomber dans son propre piège? Est-ce que ça y ferait pas du bien de faire une comédie romantique tranquille, tu sais, de faire autre chose que ses
enfants? C'est dur à dire, là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Oui, pour ce film-là, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est vrai. Mais est-ce que, tu sais, est-ce qu'il va, après ça, nous surprendre, faire carrément quelque chose de différent après? Ou là, s'il va piétiner, je sais pas. Là. Parce que, tu sais, il faut s'entendre aussi que c'est un musicien et tout. Donc, ouais, tu sais, ouais, il fait plein de choses.
C'est une autre question.
C'est le seul côté de lui que j'aime pas. Parce que
j'aime Monsieur Oiseau, genre.
Mais c'est qu'il avait fait un... À cause, quand j'étais à LA, tous mes amis américains, ils l'haïssaient. Ils disaient tout que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il haït le cinéma, puis il veut montrer que le cinéma, c'est de la merde.
OK.
Comme...
C'est sa réputation de fond. Ça, là. Ouais. Oh boy, hein, c'est pas une affaire que tu veux traîner à Hollywood.
J'ai essayé de trouver des entrevues où ce qui était dick à cause de ça. Parce que j'étais comme, ben non, c'est un cool guy. Là. Il me semble qu'il est super down to earth. Mais il y a une entrevue où ce qui dit, si tu fais pas la musique de ton film,
c'est pas vrai.
Ouais. T'as pas le droit de dire que c'est ton film. Ouais, mais là, ça, j'ai trouvé ça extrêmement ridicule. Parce qu'il y a juste John Carpenter pour ça qui fait la musique de ses films.
Non, il y a S. Craig Zahler, mais ça, c'est un génie. Fait que,
oui,
on va le laisser.
Sinon, si, mettons, tu fais pas le catering de ton film...
C'est ça, à partir de quand ça arrête. Là, il devrait être l'acteur dans toutes ses films.
Ouais, c'est ça.
C'est genre, il faut que tu fasses un film de A à Z pour être un vrai filmmaker.
Mais on va voir dans quelle avenue qu'il va aller. Parce que, tu sais, Godard aussi, au début, il a commencé, il faisait du cinéma puis tout. À un moment donné, il a décidé de tuer le cinéma aussi par lui-même, faire de la déconstruction puis arrêter carrément, ou en pleine gloire. Là. Fait que là, est-ce que Oiseau va suivre, je sais pas, tu sais,
si... Mais il a eu de la gloire.
Non, là, c'est sûr, c'est différent aussi.
Il y a
un phénomène
underground, là, ouais. le monde...
Bon, ouais, c'est une autre période aussi, mais...
Il va à Cannes tout le temps, puis là, ce film-là, il a quand même été aimé.
Oui, il était, oui.
À Cannes.
Ben, Jean Dujardin, c'est quand même... Oui. Ça score.
Jean Dujardin est great dans le film. C'est pas lui le problème. Là. C'est vraiment juste...
C'est un style d'acteur.
Okay. C'est ça, parce que même si le film dure à peine 80 minutes, t'es sans les 80 minutes.
Ça file 2 heures.
Oh, ouais, c'est ça.
Ah, c'est pas une qualité.
1h10, ça file 2 heures.
Ouais. Ah, c'est pas une qualité, ça.
Non.
Puis c'est quoi qui pourrait améliorer? C'est quoi? C'est la quête d'un gars qui veut avoir le seul manteau au monde.
Oui, c'est ça. Mais comme... Après que ça, c'est drôle, le concept il est vraiment drôle, mais là c'est juste les mêmes scènes répétées sans arrêt.
Ça, ben,
puis t'es juste OK, puis là la fin arrive, t'es comme ben c'est ça, je pensais qu'il pourrait arriver, mais
ouais,
c'est pas
ça
que genre c'est je pense que je m'arrêtais avec des amis, puis j'aurais fait il faut trouver de quoi de plus cool.
Ouais, c'est ça. C'est que ça prend une tangente. Puis là, tu te dis, OK, ça va finir vers ça. Puis finalement, ça finit vers ça. Fait que finalement, tu sais, il n'y a plus l'effet de surprise qu'il fait comme dans ses autres films.
Ouais.
C'est comme ça arrête après 30 minutes.
Tu perds le fond absurde, surréaliste. Oui. Si tu es capable de tout voir venir. Là,
ouais, ça, parce que là, la réalité l'emporte un peu plus sur le côté absurde.
Puis le meilleur sentiment que je peux décrire à travers ce film-là, c'est que tous ces autres films récents, Wrong Cops, Wrong, Au Poste, quand tu finis le film, tu es comme... C'était à propos de quoi, genre? Puis là, t'essaies de figurer c'était quoi le film exactement. C'est comme, c'est quoi? Tu penses que c'était un commentaire sur ça, ça, ça?
Ouais.
Avec ce film-là, tu fais juste le final, tu fais, c'était correct.
Ouais. Même comme, aussi.
Tu poses pas de questions.
Je veux dire, tu finis au poste, puis. Oui, à propos de quoi, mais comment je commence à décrire ce film-là à quelqu'un, tu sais, à le raconter, mais là, ça a l'air d'être facile. C'est un gars qui s'ajoute un
code. Je pourrais tout vous spoiler, mais comme ça, ça prendrait comme 2 secondes. personne.
Puis il a fait sa musique encore parce qu'il veut que ce soit son film.
Oui, mais il y a juste une toune tout le long du film.
Ouais, sa musique est vraiment plus effacée aussi que dans l'autre.
Okay. Il y a juste une toune qui joue tout le temps.
Connaissez-vous Monsieur Oiseau, vous autres? Connaissez-vous sa carrière musicale?
J'aime Monsieur Oiseau.
Y a-tu comme un drop de ce bord-là? Ou
non.
Y a-tu comme un lien?
Non, non, son dernier album était vraiment drôle.
OK.
Il y a une toune, c'est juste... C'est quoi? Il fait juste nommer des objets, comme.
OK.
C'est fucking drôle. Parce que il sait faire des tonnes drôles puis intéressantes. Comme son commentaire, si tu fais pas la musique de ton film, t'es pas le filmmaker. Mais lui, il utilise beaucoup de samples dans sa musique.
Mais
ça, c'est comme dire que les gens qui font de la musique électronique, c'est pas des vrais musiciens parce qu'ils utilisent pas des vrais instruments. Sa critique envers le cinéma est applicable à la musique qu'il fait.
C'est qu'on sait pas quoi.
Fuck
ce dude-là, j'ai tous ses films.
Non, c'est même pas vrai. J'aime ce qu'il fait musicalement et quelques-uns de ses films. Là.
Mais la comparaison à Rubber qu'on a faite tantôt, c'est la meilleure.
C'est vraiment son moins bon film à date, je trouve.
Rubber, la première fois,
c'est weird parce que c'est celui qui a pogné le plus. Tout le monde se rappelle du film que le tailleur, il parle, il pense.
Steak avant, mais Steak, c'était passé inaperçu.
Steak, c'est mon film préféré de
Moi aussi, de lui.
Puis Rubber, mais c'est parce que Rubber, ça a joué plus d'un festival, puis vu que ça avait le côté film d'horreur, le monde est intrigué par l'idée principale, genre jazz avec des tailleurs.
Mais tout le monde aime.
Ils l'ont rendu un peu de ça.
Il est capable dans le film de faire que l'objet inanimé est cute. Il est capable de le rendre cute, puis en ce moment, tout le monde aime les affaires cute. Tout le temps,
Bébé Yoda. Mais aussi, tu sais, dans Rubber, l'affaire, je pense, qui fait que le monde s'en souvienne, c'est qu'il y a beaucoup d'extraits de juste les bonnes passes sur YouTube.
Oui. Ouais.
Donc, il y a du monde qui ont sûrement jamais vu le film.
C'est devenu comme un meme, là.
C'est que... Tu sais, moi, j'ai vu Rubber, mais avant de voir Rubber, j'ai vu comme un 5 minutes, genre, sur YouTube. Et ce 5 minutes-là valait pas mal plus que l'œuvre entière, maintenant.
C'est comme Pascal disait tantôt, ça avait fait un bien meilleur... le bout, tout méta, là, le monde qui regarde le film puis qui pense qu'ils sont pas dedans, ça aurait été mieux que ce soit juste le tailleur.
Ben oui, c'est ça.
Je pense, là.
Ouais, moi aussi, parce que là, il essayait de comme justifier le truc, puis méta, mettons que là... OK, encore plus aujourd'hui, mais tu sais, c'était quand même... On parlait de méta bien avant aussi, 2009, là. C'était pas nouveau, là.
Ben non. Ben Godard faisait ça aussi, à un moment donné.
Je veux juste spoiler qu'on vient de finir la bouteille de whisky japonaise.
C'est fait avec la framboise. Est-ce que t'as fini avec le dain? Parce qu'il nous reste encore Gemini Man.
Gemini Man, ça c'est le film que je voulais parler pour vrai. J'ai écouté Gemini Man, j'avais vraiment hâte, j'ai écouté avec une gang.
Une gang. Puis tu nous as pas invité.
Une gang.
C'est
la fête d'un ami.
Gemini Man, c'est là qu'il a utilisé le même procédé de rajeuner que Scorsese a fait pour Irishman.
Je sais pas, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme procédé? Je sais juste que ça a l'air d'astite.
Mais c'est drôle parce que dans...
Qu'est-ce qui a l'air d'être de la marge?
Le
CGI.
Le jeune.
C'est pas très beau. Même dans le trailer, tu le vois. Là, c'est
Mais c'est qu'il a filmé le film aussi en 120 frames per second.
Ça, c'est net,
man. Tu vois bien plus les petites coches.
Parce que lui, il trouve que c'est le futur du cinéma. Puis là, il était comme...
Peter Jackson s'est fait avoir avec le 48.
Lui, il l'a filmé en 120. Puis, fait que à cause de le film, il y a extrêmement beaucoup de CGI. En plus, il l'a filmé en 8K. En 8K.
Fait que les.
Là, au Japon. Il veut projeter ça où, ça à la lune, là?
Exactement.
C'est quoi?
Fait qu'il y avait juste comme genre un ou deux cinémas qui pouvaient le faire jouer en 120 à travers l'Amérique. Puis, tous les autres cinémas l'ont fait jouer en comme 2K à 60 frames per second.
What the fuck, 120? Et puis après ça, ça va être 240. Voyons, Chris, t'envoies 24.
Puis là, lui, il blâmait les gens.
Les gens
qui comprennent la faute aux gens.
L'ambition puis le génie de derrière ça. C'est ça qui rend le film meilleur parce que quand que tu filmes en 8K, 120 first person, c'est que... Tu sais, c'est comme une affaire vraie. C'est qu'à cause que tu peux voir... En 8K, tu peux voir vraiment... C'est comme, qu'est-ce qui va être plus loin? Va être plus crisp. Tu sais, ça va plus pareil. Fait qu'il est comme... Les trucs dans le background, les extras dans le background, à Star, il faut vraiment que je sois soucieux de qu'est-ce qu'ils font. Comme.
Mais c'est pas un avantage.
Mais c'est que dans c'est son film, il n'y a aucun extra dans le background.
J'aime ça ta position sur la table de gars. Pas de bonheur.
Il nous a fait une confidence.
J'avais vu ça, j'avais entendu ses commentaires, j'avais lu ses commentaires avant de voir le film. On était prêts. Puis j'ai essayé de remarquer toutes les scènes.
Ça, Hank Machin, c'est lui qui a fait le premier Hulk. Là.
Oui, puis Crouching Tiger, wow. The Dragon, Life of Pi.
Puis Brokeback Mountain.
Le premier Hulk, c'était hot. Moi, j'aimais ça. Ça a été le premier film de comic book qui filait vraiment comic book.
Ice Storm. Moi, j'adore Ice Storm.
Oui,
moi, je trouve que Ang Lee devrait faire des drames. Il ne devrait pas faire des films d'action.
Ouais. Bon. Ce qu'on sent, c'est le gros budget. Ah ben, Blockbuster.
Il se concentre sur le 120 frames par seconde, puis 8K.
Fait à cause d'un gimmick, c'est ça qui rend le film meilleur, mais c'est que le problème, c'est que là, les gens ont pas été voir le film, puis ils blâment que les gens comprennent pas la technologie derrière, mais c'est que non, mais t'as fait un film de merde. Son film, c'est de la merde pure.
Parce qu'on n'a pas encore parlé. Là, on parle du contenant, de l'attitude du réalisateur. C'est comme quoi l'histoire?
Pas le goût, vraiment. Comme, genre, je peux vous marrer un peu, mais comme.
Tu peux spoiler all the way. On va se faire spoiler Gemini Man.
Gemini Man, c'est à propos de Will Smith, qui est comme le meilleur sharpshooter d'une agence qui existe. Là. C'est un assassin. Début du film, dès là, on chialait. Là. Il est en train de sniper quelqu'un dans un train. C'est comme les trains japonais TGV, là, qui vont fucking vite. Là,
Gros TGV.
Il y a un problème de physique. Il y a un petit problème de physique.
C'est ça. Puis j'ai aucune idée comment
c'est qu'il fait. Parce qu'il est en 120.
Ah, OK. Je suis désolé. Je suis l'auditoire qui comprend un peu.
Ouais.
So proud.
Il snipe quelqu'un dans un train qui va.
La séquence du début pour établir que c'est lui le meilleur.
Le meilleur des meilleurs.
Puis on voit à l'intérieur du train, puis il y a une petite fille qui s'approche du target. Il tue pas la petite fille, mais c'est ça, je pensais que ça allait faire, puis qu'elle allait comme quitter à cause de
sans
ça.
Sans vouloir, genre. Ouais.
Mais il a vu la petite fille, puis qu'elle a été. Elle a reçu le sang dans le visage du target, puis elle a été traumatisée. Fait qu'à cause de ça, il est comme, tu sais.
Fait que c'est la même affaire que s'il l'avait tué.
Ouais, c'est ça, mais il aurait dû la tuer. Comme.
C'est ça qu'on voulait. Vas-y, all-in, c'est ça que tu voulais faire à ton héros.
Il a fait pour voir la petite fille, parce qu'il est comme. Il voit rien, là. Le train va fucking vite. Je sais même pas comment.
Parce que le 120.
Ouais. Hey, c'est
puis le 120, ça y a permis.
Km/h, pas de joke, là. Ouais,
puis en 8K, c'est plus crisp.
Ouais. Ouais. Fait qu'en
c'est facile, là.
À cause que. Non, mais s'il avait tourné en 4K, il aurait pas pu voir la petite fille. Mais là, en 8K, il a vu le sang de la petite fille.
C'est,
là,
ça. C'est exactement ça.
On est Will Smith retired, qui veut juste aller pêcher. Fait qu'il va aller
pêcher en. En 8K.
En 8K.
OK, c'est bon.
Fait que là, il est capable de voir.
120 frames par seconde.
Lui, il est capable de voir. Il arrive dans la place, puis là, l'éteint. Ah, il n'y a pas de poisson de bon là-bas.
Ouais.
Fait que là.
Puis, donc, Will Smith va à la place pour pêcher, puis il rencontre Elizabeth Winstead.
La fille.
OK.
Mary Elizabeth Winstead. Ouais, de Scott Pilgrim. Qui est là, puis qui il dit « Hey, allô, c'est moi! Puis je vais être ton love interest, sûrement! » Puis là, il fait « Hey, allô! » Il fait des jokes. Will Smith, il a comme... Je sais pas, il y a quel âge Will Smith?
C'est-tu le vrai dialogue? Ans? Parce que si oui, je veux voir le film. Non,
pas ouais, il est vieux comparé à elle, tu sais.
Ouais.
Oui.
Puis dans le film, elle a l'air vraiment jeune, mais ils ont pas mis de maquillage. Puis elle paraît encore plus jeune, je trouve.
Ah oui?
Ça,
c'est l'effet du 8K. L'effet du 8K.
120 frames per second à 8K.
T'as 30 ans, t'as l'air de 15 ans avec le 8K.
Là, Will Smith, il accrose un peu, puis ça va pêcher, mais là, c'est que Will Smith se rend compte qu'elle, c'est sûrement un agent secret, puis qu'il se fait espionner par les anciens agents, même s'il est.
Ben, c'est le meilleur des meilleurs, c'est sa malédiction.
Il est retired, puis il va avoir, puis il la confronte. Puis comme non, je suis vraiment pas un agent, je suis juste une personne normale. Puis comme OK, ben je t'invite à dîner de bord. Là, elle va dîner avec lui.
Je te laisse me sucer de bord.
Ouais, si je suis Will Smith, ça va dessus. Là, elle va dîner en avec lui, puis là, il montre des photos. Oh.
Ça,
il y a ça, ce porno, besti. Puis là, il donne une photo d'elle, puis il a découvert qui était, puis elle avoue la vérité, que ouais, on check. Puis après ça, ça se donne que l'agence veut le tuer. Puis là, vu qu'il est avec, il est avec elle en train d'y parler, ben on va te tuer elle aussi. Puis ça déclenche l'histoire du film. À genre 40 minutes du film, on n'a pas encore vu l'autre Will Smith.
Son clone, là. Parce
qui est pourtant, dans le preview, on le voyait tout le long, pendant 3 minutes.
C'est le selling point du film qu'il y a deux Will Smith qui se battent.
OK.
La première fois qu'on le voit, c'est même la première scène que tu peux imaginer dans le trailer, c'est le chase scene en bike.
Ouais.
Puis c'est vraiment mal fait. Puis ça paraît qu'il essayait d'imiter Mission Impossible 5. Qu'est-ce que c'est, 5? Le Fallout?
Ouais.
Non, c'est 6.
Fallout, c'est 6. Ouais.
Celui avec la poursuite.
Ouais, ouais.
Puis excepté l'autre Will Smith, puis le bike est en CGI. Puis c'est vraiment mal fait. Puis à cause que c'est en 120 frames per second.
Puis en 8K, tu vois oui. tout, c'est sûr. Ouais. C'est la pire idée de merde.
À cause que c'est en 8K, 120 frames per second, les CGI artists, là, c'est ça, là, comme eux autres, là, ils avaient du travail de la mort. Là.
Ben, c'est supposé avoir 24 frames à faire, mais là, t'en as 120 à faire.
C'est insane.
C'est épais.
À double de résolution que d'habitude. Ça veut dire que là, tu peux pas juste faire fuck it puis mettre du blur. Non.
Ça prend une semaine à fucking rendering. Puis
c'est 5 fois plus de frames per second.
C'est hallucinant.
Puis là, ça donne des résultats de merde. Parce que comme t'en remarques que c'est vide. Puis que la plupart du monde, c'est juste n'importe quoi. En tout cas, Will Smith, puis Will Smith, il se bat.
Mais là, c'est quoi? C'est que sa compagnie a fait un clone de lui qui est plus
Clive
jeune.
Clive Owen, c'est le méchant du film.
Clive Owen.
Ouais. He's back.
Clive Owen est là. Moi,
il a toujours été là. Mais bon.
Je suis triste de la carrière de Clive Owen parce que je trouve qu'il était excellent puis je trouve qu'il devrait mérite plus que ça.
Ouais, effectivement.
Puis là, il est rendu vieux puis moche.
Qu'est-ce que tu penses de Shoot'em Up? Là?
Shoot'em Up, j'avais aimé ça, mais j'ai pas réécouté depuis.
J'avais beaucoup aimé ça, moi aussi. Ben, c'était du moins 7 à chumer.
Ouais, ouais, sûrement ça, j'avais donné un 7.
Tu continue.
Mais ouais, je suis le mop. Clive Owen, c'est le bad guy, puis lui, Will Smith, c'était son employé. Il trouvait que c'était le meilleur au monde, mais là, vu qu'écouter, il est comme, ben, je peux pas te remplacer, fait que je vais créer des clones de toi. Puis, fait qu'il a créé un autre Will Smith qui peut, comme, genre, vieillir plus rapidement, mais okay. Il atteint un âge, il est correct, là.
OK.
Il est correct.
Il semble que c'est juste des paquets de problèmes qui attendent juste d'arriver, cette affaire.
Le problème, c'est que Will Smith, le vrai Will Smith, il a des émotions. Il a pas aimé ça, il voulait pas que la petite fille soit traumatisée.
Ah,
puis là, Will Smith, lui, il veut y enlever ses émotions-là.
Il veut qu'il comprenne. Ouais. Le clone veut faire comprendre à la source que ses émotions que le clone n'a pas, que
c'est
lui
de
a
la
pas,
marde.
Sont
c'est de la
sa faiblesse. C'est donc bien weird.
C'est donc bien Star Trek.
Mais c'est que là, le clone est envoyé pour tuer Will Smith, mais le clone ne sait pas que Will Smith, c'est lui. Okay. Il pense juste qu'il ressemble.
Ah, fait que ça fait comme dans Looper, là, il finit par céder.
Fait juste comme, you kinda look like me, mais c'est comme, do we're the same. Puis il y a une grosse scène où ils se battent les deux, puis en CGI, vraiment. Et tout est comme extrêmement rapide. On dirait que c'est en fast forward, mais c'est juste
on
à cause de 120
frames.
120
frames par seconde.
Fait que tout feel fake. Mais tu vois que c'est deux vraies personnes qui se battent, mais ça feel comme deux personnes en CGI. Donc, Will Smith essaie de convaincre jeune Will Smith qu'il a été manipulé, nanana. Puis jeune Will Smith, il veut pas rien écouter. Puis il va confronter Clive Owen. Puis Clive Owen, il dit la vérité, genre. Puis il dit, tu sais, j'ai fait ça pour ton bien, nanana. Puis là, jeune Will Smith, de là, il faut qu'il prenne une décision. Puis il décide d'aider le vieux Will Smith.
Ben oui.
Puis là, il y a le huge twist du film qu'on n'a pas vu dans rien du matériel marketing. Il y a un troisième Will Smith.
Oh!
Une fille?
Il y a un fucking troisième Will Smith.
Là, c'est son fils.
Non, c'est un autre clone. Lui, il n'a aucune émotion. Là. Lui, il est juste, il est là pour tuer. Comme. Il arrive dans la scène qui était présentée, il était bien en ninja, puis il saute sur...
Il était bien en ninja?
Il saute sur des buildings?
Fresh Prince of CGI. Gemini Man.
C'est Krish.
Ah, non, mais...
C'est juste un film, c'est standard, ça. On a vu ça 120 000 fois.
Oui.
C'est comme Red,
1980.
Mais moins bon. Genre,
c'est même pas comparable à... C'est juste la pure merde.
Il faut que tu me rajoutes des teintes dans ma merde. Là.
Oui, non, mais c'est en deux cas
ça,
square.
Il est juste à battre Will Smith jeune.
Fait que c'est Will Smith square.
Oh my God. Il réussit à battre Will Smith jeune. Puis le clone de Will Smith, il va à l'université à la fin du film. Ils sont comme, ben là, tu vas avoir une vie normale, fait qu'il va à l'université.
Ah, ben oui.
Mais toutes les scènes sont en CGI, faut que tu penses à ça, là. Toutes les scènes que Will Smith parle à un autre Will Smith, ils sont en CGI.
Fait que CGI Will Smith 3 s'en va à l'université en 8K 120Hz.
CGI Will Smith 2, là.
2, ouais, c'est vrai. Sûr.
Lui, il n'y avait pas
le
d'émotion.
Le 2, il est comme, là, je suis content, j'ai une chance à une vraie vie, puis ils sont comme, yeah.
Mais là, ils ont tué Clive Owen, ça veut dire?
Je me rappelle même pas qu'il s'est arrivé avec Clive Owen.
Fait que là, il peut avoir un 2 avec plein de clones.
Mais il n'aura pas parce que ça a été un échec.
C'est un
ou
flop.
Ou
c'est un flop, puis même les critiques n'ont pas été bonnes non plus.
Ben, Chris, 120, en tout cas.
8K.
T'as-tu fini?
Ben, c'est ça. Là, c'est, j'en recommande d'écouter en gang parce que comme on était tellement frustrés sans arrêt à chialer.
Mais
il y a rien fait de son. Le editing, là, toi, ça te marquerait. Comme,
ouais, ça,
le editing du film, il est vraiment chaotique. Ça coupe à des scènes, tout d'un coup, les personnages sont ailleurs. Il y a un bout, tous qui vont sur une île parce qu'ils sont fait attaquer. Ils arrivent sur l'île, tu vois juste la plage. Puis après ça, il rencontre l'acteur chinois qui joue dans Doctor Strange.
Benedict Wong. Oui,
c'est
oui,
ça,
c'est
vrai?
Ça.
Oui, oui. C'est un Benedict.
Benedict Cumberbatch et Benedict Wong, j'aime ça.
Bon, ben Benedict Wong est là, puis il est comme I will bring you out of this island. Puis là, il arrive.
Oui, c'est un c'est chinois.
La, c'est la version Elvis Graton.
Un Graton. Chinois.
Non, non, mais Chris, Benedict Wong, calice. Je suis désolé, là, mais ça fait Elvis Graton en esti.
Benedict Wong arrive avec un avion, puis comme moi, je vais vous emmener ailleurs. Puis ils vont à une autre place, puis c'est la même fucking île. Ils font juste semblant que c'est pas, mais tu vois encore la plage, c'est la même plage.
OK, fait qu'ils ont juste comme fait un tour d'hélicoptère à côté, puis ils ont fait comme, ah, voici une nouvelle île.
Voilà.
Puis comme,
oh! Vous me devez de l'argent.
Le film, il y a beaucoup de scènes durant la nuit, mais c'est tout day for night. C'est tout le temps day for night.
C'est un petit
peu cheap. Wow! Mes amis connaissaient pas ça, ce truc-là. Ils sont moins en cinéma que nous autres. Puis fait que je leur ai dit, ah, ça, c'est day for night, c'est sûr.
C'est tellement malade.
Puis, ils ont tout remarqué, c'est quoi, Star? Fait que c'est comme, man. Je vais remarquer ça dans tous les films. Là,
ah ouais, c'est
comme le ciel est bleu.
Ah ouais, quand c'est bleu, c'est des fois nice.
Ou genre.
Sinon, en français, on dit la nuit américaine.
Ouais.
Ou sinon, t'as comme le soleil qui plombe dans, dans la végétation puis qui te laisse des super belles ondes.
Sur la face, t'as Will Smith c'est qui a comme du gros éclairage à la face, comme, mais comme
ouais, mais ça, c'est la lune.
Ah, mais ça m'intéresse l'affaire de la nuit américaine que tu parlais, toi.
Oui, mais c'est un film sur le cinéma aussi, mais de Truffaut, mais ça parle aussi de.
Des méthodes pour arrondir les coins qu'il y en a.
Oui, ça parle de cinéma en général, sur les tournages, puis tu as des intrigues, mais c'est un excellent film.
Oui, si tu veux des potins de tournage.
La nuit américaine, dans le fond, c'est que souvent, ça coûte bien moins cher de filmer vers 19h, là, à la brunante, quand le soleil est pour se coucher, puis de juste comme baisser après ça un petit peu le gain en éclairage. Ouais. Fait que tout s'assombrit, mais tu peux quand même voir les choses. Nuit américaine, plus cheap.
Mais tu as aussi la nuit... bien, bien spécial, avec des hommes en chaise dans une mansion, avec un fil bleu.
Le de côté.
On appelle la nuit de côté, ouais. Ça, c'est comme un texte sur la nuit américaine.
Moi,
mais
ça me fait des traumatismes, ça.
Ah ouais?
On est
là, je vais reprendre le micro, vu que c'est moi qui avais commencé l'animation. Fait que là, vu que ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas eu, fait qu'on a demandé à Milan s'il a vu quelque chose de potable.
Ben, on a-tu fini deux avec
c'est ça.
Parfait. Oh.
Écoute, j'ai pas vu des bons films dernièrement. Je dois admettre, là, j'ai...
tu auras le goût de parler
Je vais t'en nommer 3, OK? Je vais commencer en disant Dracula 2000.
Oh, fuck.
Ah, c'est terrible.
Ah, c'est affreux, man. Oui, en fait, j'ai écouté parce qu'on en a parlé, mais je l'avais jamais vu. Puis là, j'ai vu jeune Gérard Butler qui fait au micro. C'est infect, là.
C'est une des premières critiques que j'avais écrites dans la séquence. Puis je connaissais pas Gérard Butler.
Tabarnak,
j'avais dit que c'était un des moins convaincants de recul que j'avais vu de toute ma vie.
T'as l'impression d'être Chris au Dollar Store avec un gars qui vient de mettre ses deux incives collées au sens odile. C'était dégueulasse.
J'ai pas vu les suites. J'ai jamais osé voir les suites.
Ah, c'est... puis j'ai vu, en fait, j'ai re-regardé My Bloody Valentine 3D. C'était correct.
Bon,
moi, je préfère de loin l'original. Là.
Ben, j'ai pas vu l'original. Fait qu'il faudrait que je le regarde.
J'avais vu l'original en même temps que le...
Ben, c'est parce que l'original, il y a pas le twist à la...
Le twist est très évident. Tu le vois.
Ben oui, ben là, c'est niaiseux. Là, je veux dire, le bad guy,
l'autre,
c'est le
bad
guy. L'autre,
il y a Karl Marotte, Chris, dans le premier, là, dans My Bloody Valentine. Là.
Karl Marotte.
Ah ouais, tourné en anglais. Not Karl Marotte. Ben oui, c'était tourné par Georges Mialka.
Écoute,
Georges Mialka en 80.
C'est OK. Karl Marotte, ben
écoute-les, ça vaut la peine parce que ce film-là a été tellement censuré à l'époque. C'était dégueulasse. C'était comme un film mythique. Puis là, finalement, ils ont retrouvé des bouts puis ils ont réussi à remettre les scènes gore. Mais
c'est pour ça que j'avais vu, moi. C'est, tout le monde en parlait de.
C'est ça. Ouais.
Et par la suite, j'ai regardé Triple Nine qui s'adonnait à être sur Netflix.
C'est décevant, ça.
Je dirais pas ça de même, mais oui, c'est une façon de le présenter.
C'est Triple Nine, c'est-tu le film?
John Hillcott.
Ah ouais,
c'est terrible.
Ah
ouais, c'est comme le film avec Denzel, qui est un flic corrompu. Là. J'ai regardé ça aussi.
Oh, ouais, c'est comme Training Day.
C'est comme Training Day, mais crissement pas bon.
Ah, mais ça lève pas. Training Day, à la limite, je veux dire, c'est cliché, mais tu sais, je pense que c'est un film trop encensé. Mais je veux dire, c'était quand même bien mené, puis c'était correct.
Oui.
Denzel, il en mettait trop, il aurait jamais dû gagner le score. Mais bon, c'était l'année que tous les Noirs, il fallait qu'ils gagnent le score, puis qu'on se débarrasse d'eux autres. Merci, bonsoir. Fait que vous l'avez eu, votre hommage, Sidney Poitier, eux, sont chauds. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Ali Berry, elle le méritait pour Monsters Ball, mais lui, il le méritait pas pendant tout pour Training Day.
Non, c'était pas. Training Day, c'était correct.
Surtout qu'en plus, il a un second rôle, puis il gagne le meilleur acteur principal.
Denzel.
Wow. Denzel.
Fait que moi, Triple Nine avec Casey Affleck en premier rôle de policier neuf qui arrive à l'escouade des meilleurs, des chasseurs.
Moi, j'ai complètement
de
oublié ce film-là. J'ai trouvé ça tellement mauvais que j'ai oublié.
Moi, j'ai aimé le soundtrack.
Oui.
Fait que j'ai pas oublié le film à cause de ça. Ah, okay. J'ai le soundtrack, mon fou.
Mais vous avez tous les deux une étoile et demie.
Ah oui, c'est vrai.
Mais moi aussi. Fait que
tu te rappelles, tu sais qui a fait la trame sonore?
C'est peut-être. Oui, c'est Atticus Ross.
OK, OK.
Il y a.
C'est John Nicole qui a fait The Road.
Ah oui, c'est ça.
Hein. Ouais. À cause de ça, c'était comme. Moi, j'avais hâte au film. Je suis comme, man, ce gars qui a fait The Road, ça va être fucking bon.
Mais non.
C'est vraiment décevant.
Il y avait Chiwetel Ejiofor dedans, ouais. Woody Harrelson qui est affreux, je sais pas.
Non, il est pas bon.
Il est
pas
dans le film, non?
Ben,
non,
oui, quand même. Là.
Ouais, c'est vrai.
Oh, oui, c'est genre le détective sous-typique qui découvre genre l'intrigue, là, tu sais.
Okay. À la fin, il se sacrifie pour,
exactement.
Pour que le héros ait une chance de gagner. Exactement. Et lui, en se faisant, il fait comme amende honorable pour tous ses péchés de la vie.
Ouais. Moi, je m'attendais que ce film-là, ça allait être le nouveau Point Break.
Non, fuck all, l'esti.
Non, ça n'a rien à voir.
L'acting de...
Non, je comprends.
Point Break, moi, la prochaine fois que je l'écoute, je pense que je passe à 5 étoiles. Bref, son
titre... Attendez un petit peu tout le monde. Oui. Je pense que Florence vient de trouver une très belle critique sur IMDb. Non, hein? Je t'en prie.
Sur IMDb.
C'est une certaine Lucy qui dit « Can men in action movies like, I don't know, calm down, maybe? »
Ouais. C'est vrai que... Mais ils sont tous énervés. En fait, le plot, c'est deux policiers corrompus et deux ex-militaires cambriolent des banques et des affaires pour la mafia russe-juif, genre.
Ouais.
Pour faire
c'est pas clair.
Pour faire sortir non mais pour faire sortir de prison.
Ils ont survécu au pogrom, ils vont survivre à ça.
Puis c'est même pas pour de l'argent, c'est pour avoir des informations pour faire sortir le parrain de la mafia russe palestinienne qui est enfermé illégalement en Israël.
Je m'en bats rien à ça.
Ah ouais, c'est ça, c'est le plot.
Ouais.
Puis là ben évidemment mafia étant mafia, fait qu'à la place de dire, hey, vous êtes 5 gars, ben on va vous laisser 5 gars pour voler les données, tu sais, qu'on veut avoir, ben ils ont tué un des gars. Fait que, tu sais, là, tu te dis, là, toi, t'es la mafia, là, tu veux que les meilleurs voleurs dans la ville aillent voler une affaire super difficile, puis pour leur, comme, pas leur donner le choix, tu tues le gars qui planifie la job.
On a trouvé les 5 meilleurs gars pour cette affaire-là.
C'est ça, on va en tuer un.
Exit 1.
Ouais. Fait que là, pis ça, c'était le frère d'un autre. Fait que là, l'autre, tu sais, son frère qui est comme triste, ben, il est plus à peine, tu sais, il oublie ça, là. Il va pas les aider. Fait que là, non seulement il a perdu un gars, il a perdu deux gars. C'est complètement.
Mais les personnages sont vraiment plates.
Ah,
ensemble, là, je me souviens de rien. Là.
Ouais, je me rappelle que je ne pouvais pas me connecter à rien.
Non, moi,
je
n'avais
pas d'histoire-là. Mais il y a un bout que j'ai aimé, c'est le bout quand ils rentrent avec le SWAT team dans le building,
ouais.
Qui ont les shields,
ouais.
Puis qui se protègent dans, comme. Ça, c'était réaliste, cette scène-là.
Ouais.
Genre, est-ce que j'ai aimé
Mais il me semble qu'il n'y a pas de scène d'action cool.
Non.
Il y a rien, là.
Non.
Non, mais j'ai aimé ce bout-là avec les shields. Je trouvais comme c'était cool la façon.
Puis, tu sais, comme Casey Affleck, c'est comme la neuve, mais il a fait l'armée, tu sais. Puis là, il a vu du combat, mais on le sait pas jusqu'à temps qu'on le voit sur des forums de soldats vétérans qui regardent des vidéos de soldats en guerre, tu sais. Puis là, ben, il sauve.
C'est lui à toutes les fois.
Ouais, c'est ça. Puis l'autre plot, c'est qu'il faut assassiner ce policier-là. Pour faire un 999, c'est-à-dire que toutes les polices convergent sur un officer down. Puis là, ils vont pouvoir voler l'affaire, tu sais.
C'est ça, le 999, c'est ça. C'est quand il y a un officer down, puis toutes les polices, faut qu'il y ait comme un code Bravo.
Fait que je regardais ça, c'était pas très bon, comme on peut en
mais pourquoi tu décides de regarder des films qu'on donne une étoile et demie?
Ben, en fait, c'est que je savais pas que vous l'aviez vu. J'ai vu ça sur les internets, puis j'ai dit, bah...
Pourquoi pas? Il y a qui ici à Fleck, tout le monde. Ça va-tu être quelque chose, ça, à un moment donné? Ou il va aller rejoindre Jaden Smith?
Non, je pense que c'est mort.
Il y a les mains baladeuses.
Ah, oui, c'est vrai. Ben oui. Avant ça, la même soirée, j'ai regardé Murder on the Orient Express.
Ah, oh, ouais, j'avais donné une étoile et demie pour vrai.
Oh, ouais.
Jesus Christ.
Ouais, ouais.
A triple nine. Moi, je pensais que c'était meilleur.
Non, c'est pas bon. C'est vraiment de la marde, là. C'est ça. Fait que j'ai regardé une adaptation du célèbre Hercule Poirot. Qui appelle tout le monde Hercules Poirot. Puis là, il est insulté. Fait qu'il dit, it's Hercule Poirot. Puis c'est comme le gag du film.
T'es sûr que ça peut pas battre la version de 76? Là?
Ben non, mais c'est pas bon. Là. C'est
GI. Il est chaud avec John Malkovich.
Ah.
Il est pas pire?
C'est meilleur que le petit fucking.
Ah, c'est pas bon, ça. Ouais. C'était pas bon.
Ben, il paraît que. Ouais, c'est ça. J'ai rien entendu de bon. Tout le monde
dit que c'était pas bon. C'est un des livres les plus lus de l'histoire de l'humanité de Murder on the Orient Express. Puis toi, ça l'a pas fait.
Ben non.
Moi, je sais pourquoi. Parce que Orient Express, c'était un train qui était légendaire, justement, parce que c'était le seul train où tu pouvais avoir des lits pour coucher et que tu pouvais traverser une aussi grande distance. Le hic, c'est que le Orient Express s'arrêtait à Budapest pendant la guerre austro-hongroise. Donc, traverser Budapest, c'était quand même quelque chose et les autorités austro-hongroises ont donné la possibilité aux trains de passer par Budapest, de passer par le territoire en guerre pour pouvoir aller vers la Russie, vers ces destinations-là. Puis tout le monde convergeait vers le Orient Express. Et finalement, c'est à cause d'attentats lors de la guerre austro-hongroise sur l'Orient Express et des espions qui étaient à bord du Orient Express qu'on a Murder on the Orient Express.
Ah ben, tabarnak.
Tabarnak.
La Minute Nationale Géographique, merci, bonsoir.
Yeah!
C'est cool ça, fait que c'est comme une zone historiquement connue comme étant une zone politique qui est comme qui se promenait en plus puis qu'il était très flou, c'est très cool, merci.
Puis là, je vais vous donner des noms d'acteurs, OK?
Ouais.
Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp.
Pis,
ça, coûte cher, ça a coûté cher là, à faire, cette affaire-là.
La date,
Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, ouais. Tom Bateman. Écoute, c'est ça.
Johnny Depp, le premier avait un bon casting aussi, mais c'était un expert qui le faisait, c'était Sidney Lumet. Là, c'est Kenneth Branagh que lui, on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, à part faire des pièces de théâtre.
Il y a des moustaches.
Reste, il a fait Thor.
Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, ouais, mais il a fait le Jack Ryan aussi mauvais. Avec,
il a fait Thor.
Il a fait Dunkirk.
Non, Dunkirk.
Non,
Kenneth Branagh. Ouais, c'est Kenneth Branagh, c'est son vieux Frankenstein.
Il était bon. Non, mais il était acteur dans Dunkirk.
Ouais, ouais. Il est acteur dans.
Mais on sait qu'il est pédant depuis tout le temps.
Ouais, ouais.
Non, mais je veux dire, ce gars-là, il est correct en cadavre Shakespeare. Mais sinon, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il voulait faire de l'argent aussi.
Mais il est correct sur les planches, puis je trouve que ses premières armes à la réalisation sont correctes. Mais là, quand il est rentré dans la machine hollywoodienne.
Non, mais comme la plupart.
Ah, c'est lui qui a réalisé.
Je comprends pas.
Ouais. Ce qui est en premier rôle aussi.
Oui, mais il se met en valeur aussi souvent. Là.
Mais oui, c'est ça. Oui. Avec son estime moustache de marde.
Il y a Johnny Depp aussi, mais genre.
Oui, mais j'ai pris le premier comme genre 20 minutes, puis j'ai arrêté le film. J'étais plus capable. Parce que j'ai vu le vieux film, puis j'ai vu le TV adaptation avec Hercule Poirot qui jouait l'acteur français. Là.
Celui qui est un petit peu plus pincé.
Oui, ça c'est. Puis il y a Peter Ustinov.
Je pense que c'est ça.
Ouais.
En tout cas, le vieux.
Lui, en fait, c'est un acteur. Je sais plus quelle langue qu'il était, mais il parlait beaucoup de langues.
Je sais pas si.
Non, mais je sais plus de quelle nationalité qu'il était.
Ouais, mais moi, j'ai pas l'impression que l'univers de Agatha Christie va franchir la génération des boomers. Genre.
Ben, moi, j'ai.
Ça va ben, là, Knives Out va avoir un succès, mais est-ce
moi,
que ça va.
Moi, je les ai lus. Moi, je les ai lus quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Mais...
Ouais, mais le genre whodunit, ça n'a jamais été un genre qui a vraiment beaucoup marché. Là. Tu sais, on s'entend.
Ben, il y a ça, mais sauf qu'Agatha Christie, sa plume, comme je dirais que ça transcende pas mal les années 50, là, les années
40. Non, ça, c'est vrai.
Ouais. Que, le premier. Quand j'étais jeune, je voulais être réalisateur. Puis le
comment ça va, ce dossier-là?
Ben, ça me tente plus. Une fois que je te l'ai allé,
c'est la même affaire pour moi, man.
Mais je fais des jeux à la place. Mais en tout cas, le premier livre que je voulais faire un film de, c'était Les 10 Petits Nègres. C'est ça le titre, malheureusement, mais c'est ça. 10 Ten Little Indians.
Mais ça, ça a été adapté aussi.
Mais il y avait déjà eu un film, c'était de la petite marde.
Mais il y en a eu beaucoup d'adaptations.
Quand j'ai lu le livre, j'imaginais tous les acteurs, puis il y avait comme l'avocat dedans qui est Dick, puis j'étais comme, ça va être Carrie Elwes.
Tabarnak!
C'est ça, là, j'avais déjà, là, puis j'étais au secondaire, là, puis j'étais comme, ça va être ça, j'imaginais tout. Ça va être great.
Est-ce que Jérémy, hein? Il y a tellement.
Mais en fait, Knives Out, j'en reparlerai plus tard, mais c'est pas. En fait, Knives Out, oui, c'est un hommage à Agatha Christie, mais c'est aussi un pastiche du genre whodunit aussi. Bon, quand on parle de pastiche, on parle pas de parodie, là. On parle de genre. On parle des codes. C'est ça. C'est un genre d'hommage, mais en jouant avec les codes aussi. Là. Fait que, tu sais.
Ça finit-tu tes dernières semaines en film?
Pas mal, parce que...
Moi, j'ai vécu une sacrée aventure. On s'est retapé toutes les Astros.
Oh.
Et parce que je fais ça, je stream des jeux vidéo, puis là, on streamait Dragon Quest 11, et la trame sonore est pourrite de Dragon Quest 11. Fait que je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mon écran, puis je vais mettre des Astros. Fait que là, on écoutait des... Ben, en fait, au début, j'ai mis les Sport Billy. J'en parlerai pas longtemps de ça. Il y a un épisode de Sport Billy que le méchant s'appelle Brut Épaisse. Genre, nom de famille, Épaisse, prénom, Brut. Et en fait, là, à un moment donné, j'ai mis les Astros. Puis, en ce faisant, j'ai découvert qu'il y avait sorti une nouvelle série en 2009. Sinon, en faisant un petit peu plus de recherche, le personnage de Astro, ça date des années 50. C'est un vieux concept d'enfant robot, blablabla. Et j'ai découvert donc la série de 2009 qui est venue à cause du film qui est sorti la même année de 2009. C'est un petit peu la même affaire. Et le film de Astro, j'en parlerai pas longtemps non plus parce que c'est vraiment pas le plus hot que j'ai vu. Voyons où c'est que j'ai mis ça. Voilà, ça va être là. Désolé. Le film de Astro de 2009, il y a les acteurs, check bien, t'en parlais, moi aussi j'en ai une liste. Christian Bale, Nathan Lane, Samuel L. Jackson, Nicolas Cage, Bill Nighy, Eugene Levy, Matt Lucas, Charlize Theron, puis Donald Sutherland.
Donald.
Ça, c'est les voix. Né au Nova Scotia à nous autres. Mais c'était toutes les personnes qui faisaient les voix de ce film-là. Mmh. Et le film de 2009, c'est infectement pourri. C'était vraiment, vraiment plate.
Moi, j'avais spray, mais ça, quand je l'ai vu, mais c'est cause... C'est se mettre à cette époque-là aussi.
J'y ai donné plus 3,5. Ouais, c'est l'histoire de l'énergie bleue et rouge qui arrive sur la Terre. Oh. Puis après ça, tu peux la partager ou la garder. Puis là, le bleu puis le rouge se battent. Puis là, il y a un rouge méchant.
Mais ça ressemblait au bout aussi à Red Steel avec Hugh Jackman.
Un petit peu. Mais hey, ça aussi.
Ce qui ressemblait à Rocky.
Mais bon, ce que je veux... Ça m'a beaucoup déçu, ce film-là. Mais on a aussi écouté la télésérie de 1980, celle par laquelle on a pas mal tous, nous, ici, découvert Astro. Moi, j'avais jamais écouté ça dans l'ordre. J'avais jamais comme approfondi la patente depuis les années 80. Puis j'ai été très surpris. C'était vraiment meilleur que je pensais. Pour une affaire de 1980, là, du design de même, là, des chars qui flottent, qui ressemblent aux chars qu'on a de nos jours, c'était vraiment hot. Le design, les outils, les laboratoires, de la manière qu'ils sont designés, les outils qu'ils utilisent, même les panneaux de lumière étaient crédibles. J'en revenais pas. L'animation était super smooth. Moi, j'adore les dessins animés. Et en fait, ce qui m'a le plus fasciné, ça a été le traitement audio. Les tunes étaient toutes bonnes. Puis, tu sais, des fois, ils prenaient The Night on the Bald Mountain de Musgorfsky. Puis, des fois, c'était. Il y avait les Dance de Valkyrie, là, l'approche des Valkyries de Wagner. Tu sais, du classique dans la série pour enfants. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, il y avait des concepts assez hot. Puis, à un moment donné, tu sais, parce que moi, cette série-là, Astro, quand j'avais, mettons, 5, 3, 4 ans, ça me faisait peur. J'étais pas capable de l'écouter. Puis on est tombé sur un épisode, parce que, tu sais, dans les dessins animés pour enfants, souvent, Astro va en Égypte, fait que ça va être des pharaons. Ouais. Puis si Astro va en République dominicaine, ça va être des pirates. Puis, fait que là, il s'en va en Égypte. Puis là, il rencontre un gars, un barbu, un humain, qui a une secte. C'est une réelle secte, là. Ils se réunissent la nuit pour faire des prières puis tout. Puis à un moment donné, ils font une prière, puis lui, il prétend qu'ils viennent de faire ressusciter la reine Cléopâtre. Puis tout le monde va « Ah, Cléopâtre! » Mais dans le fond, c'est un robot Cléopâtre. Puis lui, il sait, parce que c'est lui qui l'a construit. Puis là, Astro arrive là, il gère la marde un peu. Puis là, il fait comprendre à la robot de Cléopâtre qu'elle est utilisée pour manipuler des humains, puis que ça, c'est pas correct. Fait que là, elle a un cas de conscience, puis elle dit « ça n'a pas de bon sens, je veux pas être utilisée pour manipuler des gens ». Fait qu'elle kidnappe son créateur, le professeur, puis elle descend dans en dessous du tombeau, genre dans sa fausse pyramide de robots du futur, puis là, il y a comme un tunnel pour descendre, puis elle amène le professeur, puis tu sais, le professeur fait « non, lâche-moi ». Puis là, juste avant que la porte descende, Astro, il arrive, puis il dit « non, mais laisse-la aller », puis elle fait « non ». On va dormir éternellement, moi et lui. Il a fait trop de mal. Puis là, la porte tombe en arrière de lui. Puis là, t'entends le professeur qui hurle que ça arrête. Sacrement, il vient de... C'était pour enfants, là. C'était à Radio-Canada le matin à 9h. Là. J'avais vraiment peur. Puis c'est pas pour rien, mon gars. Puis je sais pas si vous vous rappelez de Atlas. C'était comme le robot qui revenait le plus souvent par lui. Atlas s'était fait un palais de cristal dans l'espace entre Mars puis Jupiter. Parce que c'est ça, dans Astro, tu sais, je vais aller sur la Lune, je reviens pour souper.
Facile.
Comme Dr. Manhattan dans Watchmen.
Un petit peu, exactement. Et Atlas, voilà, il passait sa vie de robot, là, mais une fois de temps en temps, il revenait. Il y a genre 9 épisodes sur 52 que c'est Atlas qui est au centre de l'histoire. Des fois, il n'est pas le méchant, il est comme victime de la justice des hommes qui ne comprend pas. Mais Chris, Atlas, c'est le seul robot qui a été fait en utilisant les mêmes plans que Astro, le petit robot. Fait que c'est comme son frère. Fait que c'est pour ça que les yeux flashent quand ils se croisent les deux. Ils ont comme un lien un petit peu particulier. Puis j'avais jamais compris ça, puis ça a été développé. Puis sinon, ben il y a une dernière affaire que je veux parler, et ça m'a vraiment comme... Je me rappelle, je pesais pause, puis tu sais, je streamais en même temps. Je fais, attends, quoi? On va le reculer un petit peu, voir. Et c'est que, genre, 3e, 4e épisode, Astro, il est avec le professeur Cauldrin, là, qui est comme celui qui s'en occupe avec un esti de gros nez. Et il s'en va dans une fabrique de robots. Puis le professeur dit, « Regarde, Astro, ces deux robots seront tes parents. » Fait que là, je attends un peu. Astro est plus vieux que ses parents? C'est quoi ce cauchemar de psychologue-là? Ben, voyons donc, plus vieux que... Non, là! Il n'y a personne nulle part, ever, qui est plus vieux que ses parents. Là.
Ben oui, il y a Connor McLeod.
C'est vrai.
Wow. Connor. Ben non, Connor McLeod, il n'est pas plus vieux que ses parents. Il vieillit plus longtemps,
ouais,
mais il n'est pas né avant.
Il meurt plus vieux que ses parents,
ouais,
en tout cas.
Ben oui.
Sûrement.
C'est peut-être
ben
dans
oui.
le sens.
Le mais Highlander
c'est drôle
4
que comme
a changé la donne.
Les parents qui sont comme... Ben, eux autres ont été parents parce que je leur ai donné plus de AI avancé que toi.
Plus de AI.
C'est assez capoté. Puis sinon, ben, j'ai parlé du gros nez du professeur. Dans le dessin animé, on dirait que les nez en disent long sur la personnalité. C'est quelque chose à fouiller.
Ben, peut-être la sagesse, genre. Plus que ton nez est gros, plus que t'es sage.
Moi, à un moment donné, j'ai dit plus ton nez est gros, plus t'es gentil. Ah, puis ça se vérifie un petit peu.
Ah, ouais.
Là, il y en a un qui a dit puis plus qu'il est rond, plus t'es gentil, mais plus qu'il est gros, plus t'es puissant.
Ah.
Puis je... Ah, oh, OK. Fait que tu sais,
tranquillement, on arrive vers quelque chose de phallique.
On a
bon. On est là. On est là.
Fait qu'en tout cas, si je peux vous conseiller quelque chose, si ça vous tente de retourner dans Astro, essayez la vieille télésérie des années 80. Le reste, même celle de 2009, on a écouté quelques épisodes, puis c'est rendu pareil. Là. C'est comme, je sais pas si vous avez vu les épisodes de G.I. Joe Sigma 6. C'est des G.I. Joe faits au Japon. C'est rendu tout pareil. Là. C'est comme les Yu-Gi-Oh! C'est comme... tu sais, il y a tout à les mêmes plans, les mêmes... Il va vite, puis...
T'as regardé ça, toi, Yu-Gi-Oh!
Non, ben, okay,
c'est ça,
beaucoup.
Je me disais,
j'ai regardé quelques épisodes.
Bon, ben, Tommy qui part sur un Yu-Gi-Oh! Puis décide de regarder les 74 épisodes.
C'est plus que ça, man.
Faire un marathon de 9 semaines.
Il y a encore des jouets au Toys R Us.
Ben oui, it's time to duel, man. It's time to duel.
Les cartes de Yu-Gi-Oh! ça vaut encore cher. Là. Ça, souvent, c'est bon signe de la popularité. Mais j'ai fini, ça me tente pas de parler de rien d'autre cette semaine. On a fini le podcast pour cette semaine. Ah, mon Jérémy Damon,
ouais,
c'est toi qui as commencé. Tu te souviens, on parlait du day?
Oui, oui.
Le day? Ouais, hein? All right. On va peut-être s'écouter un David de Coteau. Hein? Ça fait du bien.
Non, ça m'étonnerait.
Hey, merci beaucoup, Milan.
Hey, ben oui.
Non, en fait, c'est toi qui fais la fin.
Ouais,
fait
ben, le début, oui, voilà. Fait que on arrive à la fin. Je pense qu'on a beaucoup parlé cette semaine. Je pense que c'était la dernière émission que vous allez entendre cette année en 2019. On va voir venir en grande forme en 2020, par exemple. Parce que ça va être notre top 10 de l'année. On va essayer d'inviter le maximum de chroniqueurs possible. Et puis, ensuite, je pense qu'on va peut-être aussi essayer de faire une émission sur le top 10 de la décennie.
C'est vrai qu'on a ça à faire.
Ça pourrait être cool aussi d'en faire un ou deux. Qui sera pas dans mon top 10. Et puis...
Shots fired.
Fait que c'est ça. Donc, continue. Ben, Tommy, je pense que tu étais plus bon pour la fin. Moi, je sais pas trop où c'est qu'on peut nous entendre partout. Fait que vas-y, fais ta plug.
Moi, je vais le faire, je le fais jamais.
Ah, c'est bon.
Hey, tout le monde, bye! On est sur Spotify, on est sur iTunes. On est pas mal partout, hein? Radio H2O, allez checker ça. On vend des t-shirts sur Facebook. Cliquez notre shop button, c'est sur T-Public. Il y a souvent des ventes. à 35%. Puis ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
Le shipping, moi, je dirais commander le t-shirt qui est soft. Le matériel est vraiment, vraiment doux.
Et on remercie j'attends le mien.
On remercie Pascal pour les mimes.
Pascal fait plein de mimes.
Excellent. Ça, il est assez
c'est
capoté.
C'est vraiment populaire. Puis même moi, j'ai like des fois. Puis je m'impressionne. C'est pas mon genre.
Et on remercie.
On remercie Florence Payette.
Hey, allô?
Excellente, excellente chroniqueuse. Let's go.
C'est vrai qu'elle est bonne.
Moi, j'aime ça quand elle vient. Puis Milan. Milan, il amène du whisky.
J'ai amené une bouteille qui était no joke, là, au moins deux tiers plein. Puis là, il reste une gorgée, Jérémy.
On s'en va dans du De Coteau. Merci tout le monde. On vous souhaite de la bonne bobine. Bye. C'est qu'on est bon.